Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
D'abord, un mot pour vous remercier de votre fidélité durant les derniers mois. C'était la publication hier du sondage d'hiver. J'en profite pour saluer mon collègue Louis Lacroix qui a pris la relève pendant cette période. Qui couvre la fin décembre, une bonne partie de décembre en fait. Et moi, je suis revenu le 8 janvier. Donc, merci à Louis et merci à vous tous de votre présence au quotidien. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous êtes toujours aussi nombreux à venir vous divertir et vous informer avec nous chaque matin. D'ailleurs, je vais faire un petit survol ce matin de nouvelles, je dirais, assez concrètes. Et d'abord, on remarque tous la température élevée des derniers jours, les records. Et ce matin, on a cette confirmation qui se répète de mois en mois que nous traversons une époque, l'époque la plus chaude jamais enregistrée. Copernicus nous dit que le mois de février, encore une fois, globalement sur la planète, c'est un mois où les températures ont pulvérisé des records, c'est du jamais vu. Et d'abord, on remarque des températures élevées, une baisse des précipitations. Je sais qu'il y a beaucoup de coins en Italie qui sont touchés par des périodes de sécheresse pratiquement. Dans d'autres endroits du monde, si on regarde par exemple à Téhéran, c'est 4-5 degrés plus élevé que ce qu'on a habituellement. Minneapolis aux États-Unis, c'est pas loin de 6 degrés en moyenne. Entre décembre et février. Donc, ce constat est permanent, c'est-à-dire qu'on avance toujours dans des périodes de plus en plus chaudes. Première conséquence de ça, on le voit, c'est le potentiel de feux de forêt. Et ce matin, la presse nous dit que la SOPFEU se prépare et se prépare plus vite qu'à l'habitude. On sait qu'il y a eu des incendies quand même importants en 2023. Il y avait eu peu de précipitations et rapidement, plusieurs parties du territoire québécois avaient un potentiel d'incendie de forêt, puis il y a eu des feux, puis on sait ce que ça a donné. Donc, du côté de la SOPFEU, on dit généralement, on ouvre les premières stations météo au mois d'avril, et ça, c'est pour la Montérégie et l'Estrie. Cette année, non seulement nous commençons le calcul du danger d'incendie dans ces deux régions, mais on va le faire également pour la région du centre du Québec. La carte devrait donc être en ligne sur notre site web ce matin. Je peux aller voir, là, mais ça veut dire qu'on se prépare. Et rappelez-vous que le ministre François Bonnardet de la Sécurité publique a fait un point de presse il n'y a pas si longtemps pour dire qu'on avait justement développé une stratégie, qu'on avait un plan parce qu'on s'attendait, encore une fois, en regardant les prévisions puis le genre d'hiver qu'on a, à un potentiel de feux de forêt encore assez élevé cette année. Deuxième chose qu'il faut regarder, peut-être que vous toussez, peut-être que vous mouchez, peut-être que vous avez un peu de fièvre, ben vous êtes pas seul. Le Journal de Montréal a fait le tour de médecins, de pharmaciens, et le constat, c'est que d'abord, ça frappe assez dur cette année, et que ce soit le rhume, que ce soit la grippe, il y a des cas de COVID avec des symptômes moindres, mais quand même des symptômes qui sont présents, ou d'autres formes de virus respiratoires. Et le constat qui est fait, c'est que ça dure peut-être plus longtemps. Tu sais, quand on dit un rhume qui traîne, là, ben ça touche, semble-t-il, un bon nombre de personnes. Donc, soyez pas étonnés. Regardez autour de vous, les proches, les enfants, puis en milieu de travail, c'est évidemment un enjeu. Et puis, il y a l'éclipse qui aura lieu dans un mois, l'éclipse solaire, le 8 avril. On sait que... Je pense que la plupart des écoles ont décidé de faire une pédagogique puis dire aux parents, organisez-vous parce qu'il y a trop d'enjeux puis c'est le transport scolaire dans certains coins. Beaucoup de scientifiques, avec raison, pensent que l'école devrait jouer un rôle. Je pense ça aussi. Mais ce sera pas le cas, notamment pour ce qui est de Montréal. Et là, vous avez des experts qui regardent quand il y a eu des éclipses ailleurs dans le monde. Et on sait là, que c'est un phénomène rare. Là. Ça va se produire dans la prochaine fois dans 50 quelques années et même plus. là, on craint les bouchons de circulation. Parce qu'à Montréal, on va se retrouver avec l'éclipse presque au début de l'heure de pointe. Alors, quel sera le comportement des automobilistes? Est-ce qu'ils vont s'immobiliser? Ils vont faire noir? Il y a une réalité. Et est-ce que ça va amener des bouchons de circulation? Alors, on est en train d'évaluer un peu l'impact de cette éclipse solaire dans un mois. On aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, une histoire assez incroyable qui concerne l'IVAC. C'est Isabelle Haché qui nous dit ça dans la presse ce matin. En gros, c'est un couple qui se forme, ça dure pas longtemps. Ils ont un enfant ensemble, une rupture. Et monsieur devient harcelant. L'homme en question multiplie les moyens, les tentatives pour empoisonner la vie de son ex-conjoint. Donc, ça n'arrête pas. Et ça se retrouve devant les tribunaux. Il est condamné pour une série de facteurs. Il n'a pas respecté des conditions, il continue d'harceler. Bref, c'est le genre d'ex qui n'accepte pas la rupture et surtout qui joue à la victime. La DPJ rentre là-dedans, puis il considère qu'il est la victime. Le juge ne croit rien de son histoire. Et malgré cela, le monsieur en question va cogner aux portes de l'IVAC, l'organisme qui est là pour indemniser les victimes d'actes criminels, et on décide de lui verser des montants pour lui et sa fille, parce qu'il fait croire que sa fille est victime de la mère. Fait qu'on est dans le scénario « je suis la victime » alors que c'est lui l'agresseur. Eh bien, l'IVAC a décidé de l'indemniser et d'indemniser sa fille. Ce qui est plus troublant, c'est que malgré le fait qu'on a présenté des jugements, des décisions de cour, des documents qui prouvent que c'est lui le harceleur, l'agresseur, l'IVAC continue à verser des montants. Pourquoi? Parce que l'IVAC a changé de politique au fil des ans. Et à une époque, c'était extrêmement sévère. Moi, j'ai vu là des proches, une mère qui a vu son enfant être assassiné par le père de l'enfant, l'ex-conjoint, ne pas être indemnisée parce qu'elle n'était pas une victime directe, disait-on à l'époque. Elle n'avait pas été témoin de la mort de son enfant. Là, on a voulu calmer ça. Et c'est vrai que le nombre de personnes indemnisées et les montants ont augmenté. Mais là, c'est peut-être un effet pervers du balancier. Surtout quand on vous fait la démonstration que c'est pas une victime et que sa petite fille est pas une victime. Alors, Isabelle Haché sera avec nous ce matin. Un autre cas intéressant. C'est un cas d'assurance-emploi. C'est une femme au Saguenay qui s'appelle Nancy Fortier. Elle se trouve un emploi, puis elle doit œuvrer pour une municipalité dans le secteur des loisirs. Jusque-là, tout va bien. Sauf que l'employeur lui demande de s'occuper du bar lors d'une activité. Elle dit, je peux pas m'occuper du bar, je suis une alcoolique. Et si j'ai été alcoolique, j'ai bu pendant des années, ça fait une couple d'années que je m'en suis sorti, je ne peux pas replonger, puis commencer à gérer le bar. Et là, elle a décidé finalement, avec son employeur, de quitter. Elle a fait des demandes de prestations pour de l'assurance-emploi. Et là, on l'a rappelé pour lui dire, madame, vous devez 6 000, à moins que vous soyez capable de nous prouver que vous étiez alcoolique. Comment tu prouves quelques années plus tard que tu étais alcoolique? Une facture de centre de thérapie, je veux dire, des avis professionnels, je sais pas trop. Mais on lui demande de faire cette démonstration. Tu sais, quand on est vraiment là dans le cadre des procédures serrées. Puis ce matin, on va vous raconter l'histoire d'une infirmière qui est venue de France, qui s'est établie au Québec avec son conjoint pendant la pandémie. Et travaille dans le réseau de la santé, ça va très bien. Sauf qu'on tombe dans la bureaucratie fédérale. Et là, son permis de travail, elle attend. Elle se trouve en chômage. Elle reçoit des prestations. Elle doit commencer un nouveau travail, puis elle peut pas parce qu'elle n'a pas le dernier papier. Tu sais, quand on nous dit on manque d'infirmières, il y a du temps supplémentaire obligatoire. Il y en a une là qui veut travailler, qui est ici, qui est implantée dans le réseau, puis ça s'étire. On a fait des téléphones pour voir si c'était vrai, puis tout ça. Oh, soudainement, l'affaire s'est réglée, puis elle devrait recevoir, si c'est pas déjà fait, là, son permis. Ce sont des petits exemples comme ça, malheureusement trop nombreux, de bureaucratie où ça demeure des cas qui sont quand même... Tu sais, dans la logique, la paperasse, ça peut peut-être s'expliquer. Mais sur le plan humain, pratique, c'est un peu plus difficile. On regarde ce qui se passe en Haïti. C'est pratiquement la guerre civile. Les gangs armés, les gangs qui contrôlent une bonne partie de la capitale Port-au-Prince, sont en mesure d'accroître leur domination. Et ils ont lancé un ultimatum. Le chef qu'on surnomme Barbecue, qui est un ancien policier, a dit si le premier ministre qui tente de rentrer au pays, mais qui est incapable, je pense qu'il est à Porto Rico, dernière nouvelle, s'il ne démissionne pas, ce sera la guerre civile, ce sera le génocide. Et ça soulève énormément d'inquiétudes. Déjà que ces gangs qui sont armés, espèces de milices criminalisées, ont le contrôle de la capitale. Et quand vous contrôlez une bonne partie de la capitale, c'est, pour ainsi dire, là, le contrôle du pays. Et vous pourrez voir ce matin un portrait qui est fait de ce chef de gang qui veut renverser le pouvoir. Puis imaginez, là, des individus, des milices comme ça, qui prennent le pouvoir dans un pays où c'est une cascade d'arrivées au pouvoir, de départs, d'assassinats, de scandales, de corruption. Le régime haïtien est truffé d'histoires qui sont d'une horreur les unes après les autres. Et le peuple souffre. Puis je parle même pas des catastrophes naturelles, comme un tremblement de terre. Je vous parle d'un régime politique qui, dans la plupart des cas, est marqué au fer rouge par la corruption. Et les gens vivent dans des conditions, évidemment, de pauvreté extrême. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens très, très riches dans certains beaux quartiers dans les hauteurs. Et vous avez ces gangs qui ont pris le contrôle. En parlant d'argent, ce matin, je voyais dans le National Post une analyse. Tu sais, on parle des jeunes qui ont de la difficulté d'accéder à la propriété, l'achat d'une première maison. On a fait une analyse de l'héritage à venir pour les milléniaux. Ceux qui ont aujourd'hui, grosso modo, entre 30 et 40 ans. C'est la génération qui va hériter le plus de leurs parents. Leurs parents, les boomers, par exemple, ont peu hérité de leurs parents parce que leurs parents n'avaient pas beaucoup d'argent, puis il n'y avait pas les mêmes régimes, puis il n'y avait pas les fonds de pension, puis tout ça. Fait que c'était assez limité. Mais là, la maison parentale vaut cher, y a des actifs, il y a des REER, il y a tout ça. Donc, les parents des milléniaux ont plus d'argent qu'on n'a jamais vu, mais ils vont finir par mourir, les boomers. Et ils vont laisser ça à qui? À leurs enfants. Donc, on prévoit que les 20 prochaines années, c'est une vague incroyable de richesse qui va s'abattre sur les enfants. Le problème, c'est que les enfants, ils ont besoin d'argent maintenant. Et même si tu hérites à 60, 65 ans d'une grosse somme, OK, c'est agréable, mais si tu veux t'acheter une maison, ce qui faisait dire à mon ami Jean Lapierre, quand tu as les moyens, c'est pas tout le monde, mais quand tu peux, aide tes enfants quand ils démarrent dans la vie. Aide-le à acheter une première maison, donne-leur un coup de pouce. C'est là qu'ils en ont besoin. Quand tu as des enfants, ça coûte cher des enfants. Quand tu as une maison, puis tu n'as pas nécessairement les revenus, tu n'es pas au sommet de ta carrière, toutes sortes d'explications. Puis c'est vrai qu'ils vont en avoir moins. Mais ça, tu leur dis, ça s'explique. Je vous le donne maintenant au lieu d'attendre à plus tard. Quand on peut le faire, quand vous avez les moyens de faire ça, puis il y a quand même un bon nombre de parents qui font ça. Juste pour rire, là, je trouve ça bien mystérieux. D'abord, des dettes de 40 millions, là, Gilbert Ozon qui doit 15 millions. Là, on apprend, dans le cadre de cette opération, qu'il y a un archiviste à qui Gilbert Ozon avait promis un emploi à vie, qui s'est fait mettre dehors, qui a poursuivi, qui a gagné, qui est allé chercher une hypothèque légale sur le bâtiment de Juste pour rire, pour un montant là, pas loin de 800 000 $ quand vous calculez les intérêts. Mais là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, les vases communicants entrent l'organisme à but non lucratif, le festival, et le groupe Juste pour rire, là, on sait comment ça marche, puis ça marche de même pour l'ensemble ou presque des festivals. Fait que tu fais pas de profit avec le festival, mais le festival achète des produits du groupe Juste pour rire, puis tu peux passer des dépenses là-dedans, puis c'est Juste pour rire qui est payant. Puis c'était vrai pour le jazz, puis c'est vrai pour tout ça. Puis là, je vois, puis je comprends, les humoristes sont inquiets, puis ils trouvent que c'est un véhicule qui part. J'osais de ça avec mon ami Ferrandez, à peu près convaincu que le scénario est le suivant, c'est que quelqu'un va reprendre les morceaux de Juste pour rire, va aller voir la ville, le gouvernement du Québec, puis va dire, si vous voulez avoir un festival en 2025, si vous voulez ramener à Montréal cette réputation extraordinaire, ben ça prend de l'argent. Et beaucoup d'argent. Parce que là, les contrats de télé ne sont plus ce qu'ils étaient, il y a toutes sortes de facteurs. Mais que la Banque nationale ait laissé grimper la créance à ce point-là, t'sais, on est dans le 40 quelques millions, j'avoue que je m'interroge sur deux, trois affaires sur la comptabilité puis les états financiers de Juste pour rire. On verra bien. Métro de New York, on va y revenir ce matin, ils ont déployé la garde nationale parce que au mois de janvier, il y a eu une augmentation du cas de violence. Le même genre de recette qu'on entend ici, là, c'est-à-dire la présence d'itinérants dans le métro, des gens qui ont des enjeux de santé mentale, des employés qui sont agressés. Objectivement, il n'y a pas plus de violence actuellement dans le métro de Montréal qu'avant la période de pandémie. Il y a des mois où ça brasse plus, il y a des événements qui sont plus médiatisés, des gens qui sont poussés devant le métro sur les rames. C'est arrivé. Mais au final, il n'y en a pas plus. Sauf qu'il y a une inquiétude. Et depuis hier soir, il y a donc des membres de la Garde nationale et de la police de l'État de New York qui patrouillent les stations et qui demandent aux gens d'ouvrir leurs sacs et qui font comme ça des fouilles aléatoires. Et là, bon, bien évidemment, vous avez le choix. On ne peut pas vous forcer à ouvrir votre sac, à moins d'avoir un motif très précis. Mais de façon aléatoire, c'est à vous de dire oui ou non. C'est comme ça si vous prenez le métro à New York, qu'on va en parler ce matin. Et puis je termine avec cette histoire quand même, le film Rust, qui met en vedette Alec Baldwin, où la directrice photo est morte parce que on tournait une scène, Baldwin avait une arme, devait tirer à blanc, mais il y avait un vrai projectile, et cette femme-là est décédée. L'armurière a été retrouvée coupable d'homicide involontaire. Baldwin va subir son procès. Au début, on l'avait annulé. Finalement, il est accusé. Va passer cet été. Et ce que la preuve a démontré, c'est que l'armurière était négligente, qu'elle mêlait les vraies balles et les fausses balles, qu'elle n'a pas fait son travail correctement, puis vous comprendrez que ça inquiétait bien des gens sur des plateaux de tournage alors qu'on utilise des armes à feu. Il y a eu, minimalement dans son cas, une négligence, mais c'est donc un cas carrément d'homicide involontaire.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Il y a deux sujets qui dominent l'actualité pratiquement tous les jours. Toute la question de l'immigration, bien sûr, et aussi la pénurie de ressources dans le réseau de la santé, les infirmières, les inhalos. Donc, une pression accrue sur les employés qui restent. Ce matin, on va jumeler les deux sujets. Je vous présente notre invitée qui s'appelle Cindy Rumigui, qui est une citoyenne du Québec depuis 4 ans. Elle est originaire de France. Elle est venue s'établir ici avec sa famille. Elle est infirmière et elle a dû naviguer dans les corridors de la bureaucratie pour pouvoir travailler dans le réseau de la santé. Madame Rumigui, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, racontez-nous un peu votre histoire. Là, je l'ai résumé, mais vous êtes arrivée au Québec il y a 4 ans, à peu près.
À peu près, oui. Je suis arrivée en juin 2020, en pleine COVID, avec mes enfants et mon mari.
Et pourquoi venir au Québec?
Parce que le Québec, c'est un peu un rêve de Français. On voit les grands espaces, la possibilité aussi d'évoluer au niveau professionnel. C'est vraiment un rêve que j'avais depuis plusieurs années, qu'on a réussi à concrétiser à ce moment-là.
OK. Et là, vous avez donc décroché un emploi dans le réseau de la santé?
Oui, j'ai décroché un emploi dans le réseau de la santé après avoir effectué mon stage d'adaptation. C'est un stage qui est obligatoire pour les infirmières françaises. Ça nous permet de découvrir le système de santé québécois, qui est quand même différent de ce qu'on apprend en France. Puis, j'ai travaillé dans différents domaines, que ce soit en CHSLD, en vaccination. C'est surtout ça, avec les personnes âgées que j'ai travaillé.
Dans des RPA, par exemple?
Aussi, RPA et CHSLD.
OK. Là, c'est le volet professionnel. Parlez-moi maintenant de votre statut.
Mon statut, donc, depuis ce matin, j'ai mon permis de travail. C'est un permis de travail que j'ai demandé mi-septembre 2023. Pour donner des chiffres exacts, ça fait 174 jours que j'attendais ce permis de travail pour enfin pouvoir travailler. C'est compliqué. Il y a des délais qui sont annoncés, qui ne sont pas toujours respectées. Alors, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de travail. Je peux comprendre que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de démarches à effectuer auprès de l'immigration pour qu'ils puissent déterminer si quelqu'un a l'autorisation ou non de travailler. Mais dépasser des délais, puis ne pas permettre à quelqu'un de travailler quand un contrat est déjà signé, que son employeur l'attend depuis 3 semaines, ça fait un petit peu râler.
Parce que au point de départ, le délai devait tourner autour d'une centaine de jours. Vous dites on est à plus de 170. Là, vous l'avez reçu ce matin, tant mieux. Mais oui, ça a fait en sorte que vous n'avez pas pu travailler pendant une longue période de temps.
C'est exactement ça. J'avais un permis de travail qui était fermé, donc avec mon ancien employeur. Puis quand mon permis de travail s'est arrêté, j'ai donc fait la demande du nouveau permis de travail avant pour être sûre de le recevoir dans les délais. Puis finalement, le 102 jours qui était annoncé au départ n'était pas respecté. Donc là, je suis rendue à 174 jours avec un permis qui est arrivé ce matin.
Et là, vous aviez un contrat pour travailler dans un CHSLD dans les Laurentides.
Oui, c'est exactement ça. En tant que chef d'unité, mon employeur, que je remercie énormément parce qu'il m'a attendu, m'attend toujours. J'étais censée commencer le 19 février, puis là, je vais enfin pouvoir commencer la semaine prochaine.
Ça veut dire, là, en résumé, depuis combien de temps que vous êtes en chômage, donc que vous auriez pu travailler et que vous ne l'avez pas fait?
Depuis septembre 2023.
Durant toute cette période-là, vous auriez pu faire votre travail d'infirmière quelque part dans le réseau de la santé alors qu'on manque de personnel. Mais comme vous n'aviez pas les papiers requis, vous n'avez pas pu travailler.
C'est exactement ça. Oui, c'est particulier comme situation. Je trouve ça dommage.
Comment vous avez vécu des prestations d'assurance chômage ou?
Depuis peu. Depuis janvier, oui, j'ai eu droit à des prestations d'assurance chômage. Avant d'arriver ici, c'est vrai qu'on met toujours un petit peu d'économie de côté, mais c'est vrai que les économies finissent par fondre comme neige au soleil, ben, comme en ce moment. Puis c'est compliqué.
Votre mari fait quoi dans la vie?
Mon mari, il travaille dans une entreprise, dans une petite usine. Il est mécanicien et soudeur.
Et est-ce qu'il a lui aussi un enjeu de permis de travail?
Pour l'instant, son permis de travail est en attente, il est dans les délais. Donc, on va dire que c'est pas un enjeu si on regarde les délais de l'immigration.
Ben d'abord, je suis très content que vous ayez pu obtenir votre permis. Je suis content pour vous, puis je suis content pour le réseau de la santé qui n'arrête pas de nous dire qu'on manque de personnel. Puis là, vous étiez dans les méandres du gouvernement fédéral, là, je pense.
C'est ça. C'est exactement ça.
OK. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous ce matin.
Merci à vous. Je suis contente d'avoir pu partager mon histoire. Peut-être que ça aidera d'autres qui sont dans la même situation que moi, puis particulièrement ceux qui ont du travail, qui les attendent, parce que je trouve pas ça normal qu'on touche du chômage alors qu'on pourrait travailler.
Exactement. Merci. Bonne chance à vous, Madame Roumégui.
Merci. Je vous remercie.
Au revoir. Cindy Roumégui est une infirmière. Elle est arrivée au Québec en pleine COVID, donc il y a environ 4 ans, pour travailler dans le réseau, particulièrement dans le secteur des CHSLD, personnes âgées. Et période, évidemment, comme elle a dit, d'adaptation au système québécois. Et là, parce que ça s'empile sur les bureaux à Ottawa, ben, on se retrouve avec des délais. Et pendant tout ce temps-là, alors qu'elle veut travailler, qu'elle est apte à travailler, qu'elle a les compétences pour travailler, elle ne travaille pas. Il y a un emploi qui l'attend dans les Laurentides. Elle va l'avoir. Son employeur a décidé de patienter. Mais comment peut-on se priver de ressources comme ça? Puis là, il y a eu tout le débat cette semaine sur le regroupement familial des gens qui attendent depuis 2 ans. Quand la ministre me dit, ben, ça peut prendre jusqu'à 3 ans, pour réunir une famille. Ton enfant a 2 ans, papa va débarquer quand il aura 5 ans, quand il va commencer l'école. Pas normal. Et puis, savez-vous quoi? C'est bizarre, hein? C'est quand on s'est mis à téléphoner que soudainement, hop, ça a comme débloqué. Puis que hier, là, ils savaient qu'on s'en venait avec ça. Hop, le permis a été émis, puis elle peut donc aller travailler. Et comme ça arrive, je le dis tout le temps, c'est pas normal. C'est pas parce que mon équipe appelle, que le dossier débloque. Il y a combien de gens qui sont dans cette situation-là? Et la raison pour laquelle on en parle, c'est justement pour secouer les puces de la machine, de laisser attendre des gens compétents qui peuvent venir dans le réseau de la santé. On fait tout pour attirer les gens, puis il y en a qui se font une spécialité de les garder sur les lignes de côté. Maintenant, on va parler de l'IVAC, qui a le mandat d'indemniser les victimes d'actes criminels. Isabelle Haché, dans La Presse, nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été harcelée par l'ex. L'ex a été condamné. Et ce qui est hallucinant dans cette histoire-là, c'est que l'ex se fait indemniser parce qu'il joue à la victime. Il fait croire donc qu'il est victime de son ex-conjointe, alors que les preuves, les documents montrent exactement le contraire. Elle est avec nous ce matin. Isabelle Haché, bonjour.
Bonjour.
Raconte-nous grosso modo l'histoire. Là. C'est un couple qui se forme, ça dure pas très longtemps, mais il y a un enfant.
Il y a un enfant qui survient après quelques mois de fréquentation, mais très, très vite, la relation devient toxique. Il harcèle, il l'empêche de sortir de la maison, il devient très, très, très contrôlant. Donc, l'enfant a seulement 3 mois quand elle fuit la maison carrément. Et par la suite, là, il continue à lui écrire des textos, à la harceler, à lui conseiller de se suicider, toutes sortes de choses très, très harcelantes. C'est du harcèlement criminel. Donc, elle porte plainte et finalement, il finit par plaider coupable. Mais il continue. Et puis, il est condamné à 14 mois de prison. C'est vraiment une peine exemplaire. Puis, on le voit dans le jugement. Là, on a voulu passer un message à la société. Ça se fait pas, ce genre de comportement toxique-là. Donc, ça, c'est un des jugements qui a été rendu dans cette cause-là, parce qu'il y en a eu plusieurs autres qui sont tout aussi accablants, qui sont tout aussi clair que cette personne-là est harcelante et que la victime, c'est bel et bien madame.
Mais comment il faisait pour revendiquer le statut de victime, pour essayer de faire croire au juge, là, puis faire croire à l'IVAC qu'il est une victime?
Ben, au juge, il a simplement dit que c'est lui qui était victime, qui avait été victime de violence conjugale de la part de sa conjointe. Le juge l'a pas cru du tout. Il a dit que le témoignage était absolument pas crédible. Je dis le juge, mais il y en a eu plus de 3, au moins, qui ont dit que son témoignage était absolument pas crédible. L'IVAC, tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est remplir un formulaire, puis décrire qu'est-ce qui s'est passé. Puis sur la foi de ce qui est écrit dans ce formulaire-là de 3 pages, on décide si, oui ou non, il est admissible à des indemnisations.
Ce que je comprends, là, c'est que, bon, il y a eu des jugements dans son cas. La DPJ aussi a analysé le dossier, puis il s'est pas présenté à des rendez-vous. Il a pas respecté les conditions, là.
Non, la DPJ, moi, j'ai lu 2 rapports de la DPJ qui sont tout aussi clairs. C'est tellement clair quand on lit tout ça que vraiment, ses comportements sont absolument toxiques, harcelant sans arrêt. Il a même été déclaré plaideur quérulant. À un moment donné, il peut plus s'adresser à la cour sans demander la permission du tribunal. À tel point, il harcelait aussi par la voie des tribunaux, par la voie des organismes, son ex-conjointe. Donc, oui, la DPJ a voulu savoir aussi qu'est-ce qui s'était passé dans le cas de l'IVAC. Donc, on a essayé de contacter l'IVAC. Ça a été long avant qu'il y ait une réponse, mais ils ont finalement eu une réponse. Puis c'est ce que je viens de vous expliquer.
Mais ce qui n'a pas de bon sens, là, c'est-à-dire qu'on souhaite accélérer le processus d'indemnisation pour que les victimes, les vraies victimes d'actes criminels, reçoivent une aide monétaire. C'est une chose, là, faire sauter un peu la paperasse. Mais une fois que tu arrives devant l'IVAC, regardez, il a été condamné X nombre de fois, voici les rapports accablants, on maintient pareil l'indemnité.
Ben, c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là.
C'est
je
ne
sais pas si ça arrive tout le temps, mais moi, cette dame-là m'a contactée au moment où elle a eu la réponse de l'IVAC qui leur a dit, puis j'ai entendu les enregistrements, qui leur a dit non, on continue, on ne ferme pas les dossiers. Elle a vu vraiment fermer les dossiers parce qu'elle a peur que sa fille, parce qu'il y a une fille aussi là-dedans qui est aussi indemnisée, qui a aussi été reconnue comme personne victime de violence de la part de sa mère. Donc, éventuellement, sa fille qui a 4 ans va grandir, va savoir qu'elle a été indemnisée pour des gestes supposément posés par sa mère. Donc, elle trouve ça affreux. Elle veut pas se faire être dans cette position-là, puis je la comprends. Donc, elle a fait, c'est dans ce cadre-là qu'elle a fait des démarches pour faire fermer les dossiers. Puis elle a pas réussi, même après avoir envoyé les 3 jugements dont je vous parle, même après avoir envoyé les rapports de la DPJ dont je vous parle, ça a été une fin de non-recevoir.
Depuis que j'en ai parlé ce matin, puis que les gens ont lu ton article là-dessus, j'ai beaucoup de commentaires de gens qui ont été indemnisés, pour qui ça a pris du temps et des mois et des mois et des mois. Dans d'autres cas, la victime d'agression sexuelle était mineure. On a dit une personne mineure, ça vaut à peu près 200$ par mois. Mmh. D'autres cas, vous n'avez pas été témoin directement du crime, donc vous n'êtes pas une victime. Il y a eu une époque où c'était très complexe.
Oui, effectivement. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une réforme de la loi sur l'IVAC en octobre 2021. Rappelez-vous, ça a été réformé. Puis on a élargi en fait l'accès à l'IVAC pour toutes sortes d'infractions criminelles qui n'étaient pas couvertes avant, qui n'étaient pas admissibles. Puis on a aussi enlevé l'obligation de présenter une preuve que le crime s'était produit. Donc avant, c'était par exemple un rapport médical qui disait « bon, ben j'ai été blessé, ça c'est la preuve », et ça prenait cette preuve-là. Maintenant, non, on a juste besoin de décrire ce qui s'est passé dans le formulaire. Donc, on suit sur la bonne foi des victimes, puis c'est bien en fait, parce que c'était difficile avant. Par exemple, une femme qui est victime d'agression sexuelle, elle peut pas toujours prouver qu'elle a été, elle peut pas toujours prouver le crime, le viol. Puis c'est arrivé plusieurs
fois. Je me souviens d'un cas là, qui était troublant. C'est un ex-conjoint qui avait tué l'enfant du couple. Et ce sont les policiers qui ont retrouvé les corps. Et la mère qui avait perdu son enfant se disait victime d'un acte criminel commis par quelqu'un d'autre. Et la réponse avait été, est-ce que vous avez vu les corps? Est-ce que vous avez vu le crime? Elle dit non, mais elle dit c'est mon enfant. Bon, ben on peut pas vous indemniser. Vous avez pas été témoin de ce crime-là.
Mm-hmm.
Ça a pas de.
Ben, Guy Turcotte, je pense que c'était ça beaucoup. Ça a été beaucoup discuté, puis je pense que c'est pour ça. Il y a eu des rapports aussi, le rapport de la protectrice du citoyen qui disait il faut changer la culture de l'IVAC. Tout ça partait d'une bonne intention, mais il faut quand même reconnaître, je pense, que ça ouvre assez grand la porte à des escrocs comme ce monsieur-là.
Mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'une fois que la preuve documentaire existe, que les jugements sont là, que les évaluations sont là, puis qu'on s'entête à dire non, non, nous, on continue.
Moi, je m'explique pas ça non plus.
Isabelle Haché, merci d'être venue ce matin, qui est chroniqueuse à la presse.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, aujourd'hui, entrent en vigueur de nouvelles dispositions de l'aide médicale à mourir. Ce sont des changements qui étaient réclamés depuis longtemps et qui ont fait l'objet d'un bon débat. Puis c'est pas terminé parce qu'il y a tout un débat qui continue autour des soins de fin de vie. La ministre déléguée à la Santé et aux aînés est avec nous ce matin, Sonia Bélanger. Madame Bélanger, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Concrètement, là, qu'est-ce qui entre en vigueur aujourd'hui? Pour qui l'aide médicale à mourir sera accessible et ce ne l'était pas avant?
Oui, bien, en fait, c'est une disposition extrêmement importante là, de la loi qu'on a adoptée l'été dernier. Et en fait, c'est une disposition qui s'adresse aux personnes qui ont une déficience physique grave, donc avec des incapacités significatives et persistantes. Alors, on sait que cette disposition devait entrer en vigueur dans les 9 mois suivant l'adoption. Alors, moi, je suis très heureuse. Les travaux ont été faits. Et puis, donc, à partir d'aujourd'hui, les personnes qui sont en situation d'handicap, mais on parle de déficience physique grave, s'ils répondent à tous les critères, pourront être admissibles à l'aide médicale à mourir.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, une déficience physique grave?
Oui. En fait, c'est un terme, vous savez qu'au niveau fédéral, ils ont pris le terme handicap. Ici, lors de l'étude de notre projet de loi, plusieurs personnes en situation d'handicap nous ont dit qu'ils ne voulaient pas avoir cette étiquette de personne handicapée. C'est pas comme ça qu'ils conçoivent leur situation. Beaucoup d'experts accompagnaient ces gens-là, sont venus nous dire que le meilleur terme au Québec, c'est les personnes avec une déficience grave. Et donc, quand on pense à une déficience grave, je peux vous donner quelques exemples.
Oui, oui.
Prudente, par exemple, on parle, par exemple, d'une personne qui serait quadriplégique avec une atteinte de différents systèmes pulmonaires, digestifs. Donc, on parle ici de personnes là, qui ont des déficiences avec un caractère extrêmement avancé qui s'accompagnent de souffrances physiques, psychiques, persistantes et insupportables. Alors, on voit là, on parle pas ici d'une personne qui a un handicap seulement physique, mais vraiment une situation beaucoup plus complexe.
Je sais pour avoir vu des cas que la SLA, par exemple, il y a des gens qui ont obtenu l'aide médicale à mourir en disant « Je fais ma demande, je sais comment ma vie va se terminer si je continue avec des souffrances très graves. » On a permis l'aide médicale à mourir à ces gens-là à l'époque. Pourquoi il a fallu y aller avec de nouvelles dispositions pour les personnes en déficience physique?
Oui, mais en fait, vous posez une très bonne question parce que vous savez, la SLA peut être considérée comme une maladie. Alors, vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il y a certaines personnes qui souffraient de SLA qui ont obtenu l'aide médicale à mourir. Là, on parle davantage, le critère a été élargi à des personnes qui sont donc en situation d'handicap, par exemple, suite à un accident. Une personne qui est quadriplégique avec une atteinte systémique importante, mais cette personne-là, elle n'a pas de maladie. Alors, vous voyez un petit peu la différence.
Ouais, ouais.
C'est pourquoi les SLA, il y a eu une exception, c'est que selon les médecins spécialistes, les neurologues, ben, la SLA, c'est une maladie davantage là, qu'un handicap.
Parlons des prochaines étapes à venir. Il y a tout le débat, évidemment, sur les gens qui souffrent de maladies dégénératives. Il y a le fédéral d'un côté, il y a vous de l'autre. On se situe où ce matin là-dessus? Là?
Bien, en fait, nous, on continue, M. Arcand. J'ai eu l'occasion, je pense, de discuter avec vous il y a environ 2-3 semaines sur la demande anticipée. Vous savez, on a fait une sortie, nous étions trois ministres. On demandait d'avoir une exemption au niveau fédéral. Ben, écoutez, moi, je suis extrêmement déçue. Le fédéral a manqué une belle occasion là, de répondre positivement à une demande consensuelle au Québec, que ce soit de la part des citoyens, des patients, de l'ensemble de la députation. Alors, il n'est pas trop tard. Ils peuvent encore modifier leur loi. Ils auraient dû le faire tant qu'à moi la semaine passée. C'est ce qu'on leur demandait. Ils ont modifié la loi, le code criminel, pour repousser le trouble mental pour une période de 3 ans, en lien avec la mise en œuvre pour l'aide médicale à mourir pour le trouble mental. Ils avaient là une belle occasion de reconnaître qu'au Québec, on a une loi en bonne et due forme. Ils l'ont pas fait, mais il n'est pas trop tard. Nous, on continue dans cette voie-là et on l'a dit. On s'était donné 24 mois maximum après l'adoption de la loi pour la mise en vigueur. Moi, c'est pas mon objectif. Je souhaite que d'ici la fin de l'été, on puisse aller de l'avant. Donc, on continue nos discussions.
OK. Donc, ça veut dire que le fédéral, pour l'instant, dit non. Vous dites, on continue à discuter, négocier. Mais concrètement, à la fin de l'été, par exemple, est-ce que le Québec pourrait dire, j'autorise ces demandes anticipées, même si le fédéral l'a pas reconnu, ou ça paralyse complètement le système?
Ben, écoutez, on travaille sur un plan B. OK. C'est clair que nous, notre volonté, là, tous les travaux qui ont été faits avec la loi sur les soins de fin de vie, là, on reculera pas. On a un consensus fort au Québec. On veut éviter de mettre nos professionnels dans des situations là, de zones grises où ils vont être extrêmement inconfortables. On veut éviter les poursuites aussi, là, naturellement, pour nos médecins, nos IPS. Alors, on continue sur notre demande initiale. Puis, on espère qu'on aura une écoute attentive, puis surtout des actions concrètes. Et ben, sinon, on passera à une autre étape, là, bien sûr.
Mais est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils n'ont pas cette ouverture-là? Je pense à Mme de Montigny là, qui répète depuis longtemps, elle souffre d'Alzheimer, elle a vu son père, elle veut pas se retrouver là, elle veut donner des directives claires. Pourquoi ça bloque?
Ben, en fait, au niveau fédéral, ça bloque parce que vous savez, ils ont fait un grand comité là, avec les sénateurs, les représentants de l'ensemble des partis politiques. Il n'y avait pas un consensus à ce niveau-là. Je pense que le Parti libéral, actuellement, veulent éviter d'ouvrir un débat supplémentaire dans le contexte dans lequel ils sont. Alors,
mais dans les cas de santé mentale, je peux comprendre, là, mais quand quelqu'un dit pendant que j'ai toute ma tête, je veux prendre une décision parce qu'après ça, il va être trop tard parce que je répondrai pas aux critères. Il me semble qu'il y a moyen d'établir des balises pour que ça soit fait correctement.
Ben oui, puis on les a, les balises. C'est là-dessus, justement, qu'on a travaillé au Québec. Tous les travaux ont été faits avec les personnes, justement, un peu comme Mme de Montigny. On travaille, d'ailleurs, Mme de Montigny travaille avec nous pour élaborer les différents outils. On travaille avec les médecins concernés. Il n'y a pas de raison que le fédéral nous accorde pas cette exemption. Au Québec, on a une loi qui est forte, on a des balises, on a tout ce qu'il faut. Alors, on va continuer, M. Arcan. C'est inadmissible qu'il y ait des personnes qui souffrent, qui s'inquiètent. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a un consensus au Québec. C'est prévu dans notre loi, puis on va aller de l'avant.
Parce que la crainte des médecins, par exemple, c'est de dire si Québec me le permet, mais si le code criminel le permet pas ou si le fédéral l'autorise pas, je veux pas me ramasser en deux chaises juridiques, là.
Et on le comprend, et on trouvera une voie de passage lorsqu'on sera rendu là. Mais vous comprenez que ce matin, tu sais, dans le fond, moi, mon message, c'est on continue nos discussions avec le fédéral.
Okay.
Et il n'est pas question qu'on passe à un plan B au moment où on se parle. Puis on va aller de l'avant. Notre loi, elle est forte et on veut une exemption. On va tout faire pour l'avoir.
Parfait. Merci, Mme Bélanger. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Sonia Bélanger, ministre déléguée à la santé et aux aînés et aussi, vous l'aurez compris, responsable des soins de fin de vie au Québec. Bon, on parle beaucoup de météo, c'est sûr. Vous voyez les données de Copernicus qui confirment que le mois de février, encore une fois, a été le mois le plus chaud de l'histoire, comme le mois de janvier l'a été, comme le mois de décembre. Je parle à travers la planète, évidemment, avec des températures très élevées. Je donnais des exemples plutôt de villes où on a enregistré 5 degrés de plus, que ce soit à Téhéran ou ailleurs aux États-Unis, Minneapolis. Ici, on a un hiver qui est doux. On appelle ça un printemps hâtif. La saison dernière, on a eu des feux de forêt majeurs au Québec, puis on se demande si cette année, ce sera un peu le même scénario. En tout cas, on a l'air à s'y préparer. Avec nous, Stéphane Caron, qui est coordonnateur à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour.
Faites-moi un peu le portrait des forêts québécoises en ce début du mois de mars. Le printemps hâtif, ça doit vouloir dire quelque chose de très précis quand même.
Oui, tout à fait. Pour nous, un printemps hâtif, ça veut dire que la saison des feux va débuter plus tôt qu'à l'habitude. On sait que cet hiver, on a eu un déficit de précipitations de neige par rapport à la moyenne, donc beaucoup moins de neige qu'à l'habitude. Et on a un printemps, on n'est pas tout à fait au printemps encore, là, mais on a une fin d'hiver qui est très doux. Donc, le couvert de neige disparaît beaucoup plus vite qu'à l'habitude et ça nous a amené là à ouvrir nos stations météo du sud de la province plus rapidement. Quand on ouvre nos stations météo, ça veut dire qu'on commence la diffusion du danger d'incendie, l'indice du danger d'incendie, le quotidien qu'on présente. Donc, en ce moment, pour l'Estrie, la Montérégie, le centre du Québec et le sud de l'Outaouais, on a déjà une diffusion de danger d'incendie. Ça, M. Arcan, c'est presque un mois plus tôt que d'habitude.
Un mois plus tôt que d'habitude?
Oui. Effectivement, habituellement, nos premières diffusions du danger d'incendie vont être dans la première semaine d'avril. Donc là, on est vraiment plus tôt qu'à l'habitude. Puis au printemps, ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que dès que le couvert de neige est disparu, on a la végétation morte de l'an passé. Donc la broussaille sèche et les vieilles feuilles mortes, les branches secs. Et ça s'assèche très rapidement avec seulement quelques heures d'ensoleillement, un peu de vent et ça devient du combustible hautement inflammable. Ce qui fait que chaque année, en moyenne au printemps, là, jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, on peut dire là, il y a en moyenne 275 incendies de forêt. Les gens pensent que c'est juste l'été, les feux de forêt, mais la grosse partie là, des feux de forêt, c'est au printemps.
Mais
les
quand
feux sont un peu plus petits, par exemple.
OK. Quand vous me parlez de ces incendies, de ces feux de forêt, bon, il y a eu des cas médiatisés, c'est sûr, là, que quand quelqu'un allume les feux, se fait arrêter, se fait condamner, bon.
Ouais.
Mais les causes, quelles sont les causes de ces feux de forêt? Une fois que la table est mise, là, qu'est-ce qui fait que le feu, que le feu ravage les forêts?
Oui. Là, l'an passé, on était dans une situation très particulière où il y a eu vraiment un front de foudre qui a généré là, l'essentiel des feux de forêt qui ont été très médiatisés. Il y a eu un cas d'un pyromane, là, mais qui a fait à peu près 16 incendies. Mais ça, c'est pas que c'est négligeable, bien au contraire, mais c'était pas l'essentiel des feux. Mais si on prend la situation générale au Québec, 80% des feux de forêt sont causées par l'activité humaine, donc par un geste humain. Et de ces 80 %-là, les principales causes, là, la cigarette jetée par terre est encore un élément important. On parle de 80 feux de forêt en moyenne causés par des mégots de cigarettes. Les feux de camp mal éteints. Au Québec, on aime ça beaucoup, faire des feux de camp. Là, c'est très agréable, mais il faut les éteindre complètement avec de l'eau pour être sûr que ça ne renaisse pas de ses cendres. Et on a aussi, particulièrement au printemps, les brûlages de rebuts. Vous savez, chaque année, 75 feux de forêt sont causés par des résidents qui font des brûlages de rebuts pour nettoyer leur terrain, brûler leurs vieilles feuilles mortes et tout ça.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, puis on parle du réchauffement de la planète, puis de ces vagues de chaleur, là, puis ces températures inhabituelles, c'est que les causes, on les connaît depuis longtemps, sauf que la table est mise plus rapidement qu'avant, que les conditions sont réunies beaucoup plus vite et elles sont propices à ces incendies.
Oui, tout à fait. Ce que les changements climatiques nous amènent, c'est à créer une espèce de terreau fertile pour les feux. Donc, vous savez, le même mégot de cigarette qui est jeté dans de la broussaille humide, il fera pas de feu de forêt. Mais si la végétation est très, très sec parce qu'on a eu moins de précipitations, les températures sont plus élevées, il y a des l'assèchement là est présent, ben ça va générer des feux beaucoup plus facilement, plus nombreux et surtout de plus grande intensité. Quand c'est très sec dans la forêt ou à proximité de la forêt, les feux vont être, ils vont se propager beaucoup plus rapidement et intensément. C'est ce qu'on a vu l'été passé. L'été passé, on se rappellera là, que les feux sont survenus là avec le front de foudre le 1er juin. Et ça, c'est survenu après un mois de mai particulièrement sec où il y avait eu le tiers des précipitations normales pour un mois de mai. Donc, c'est ce qui fait que non seulement il y a eu plusieurs feux, mais ces feux-là étaient beaucoup plus forts, avançaient beaucoup plus rapidement et faisaient beaucoup plus de dommages.
Merci, M. Caron. Très gentil à vous. Stéphane Caron est coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU. Parlons maintenant de la situation en Haïti, parce que depuis les derniers jours, depuis l'évasion massive de prison, on voit le ton qui monte et plusieurs donnent l'impression que les gangs armés prennent de plus en plus le contrôle de la capitale, Port-au-Prince, ou en tout cas une bonne partie. C'était déjà le cas pas mal, on en a parlé souvent, mais le premier ministre qui n'arrive pas à rentrer après un voyage en Afrique, j'en parle ce matin avec Étienne Côté-Paluc, qui est journaliste, il est en Haïti depuis 14 ans, rédacteur en chef de Haïti Magazine. Monsieur Paluc, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, d'abord, peut-être nous dire ce qui s'est passé dans les dernières heures. Là, on sent vraiment que c'est comme une espèce de veille de guerre civile.
C'est vraiment assez intense pour les gens qui habitent Port-au-Prince depuis jeudi dernier. En particulier, samedi, il y a eu des gros affrontements et depuis, on surveille l'aéroport. Comme tu l'as dit, on attend le retour du premier ministre, mais l'aéroport est devenu une cible des groupes criminels armés dans les derniers jours. Et donc, tous les vols ont été annulés pour l'instant et on se demande quand est-ce que le premier ministre pourra revenir. Son pouvoir est même remis en question, entre autres par les États-Unis. Donc, ça sent la soupe chaude pour le premier ministre en ce moment, puisque une grande partie de la population avait déjà manifesté. Beaucoup de gens étaient très impopulaires. Beaucoup de gens l'aimaient pas beaucoup, le critiquaient beaucoup. Et là, maintenant, les groupes criminels armés du centre-ville se sont joints à cette grogne populaire d'une manière assez violente dans les derniers jours. Ils en ont profité pour faire l'évasion, ou en fait forcer l'évasion de près de 5000 prisonniers dans la région de la capitale samedi soir. Et là, ça inquiète beaucoup de gens parce qu'ils se retrouvent un peu partout dans la ville et certains d'entre eux ont rejoint les groupes criminels armés pour renforcer leurs troupes. Donc, on est un peu inquiets malgré tout. Depuis 3 jours, c'est assez calme. Il y a quelques commerces qui ont commencé à réouvrir hier, mais les banques, les institutions publiques, la plupart des bureaux restent fermés malgré et tout. Donc, c'est quand même inquiétant ce qui se passe. Hier soir, il y a encore deux commissariats qui auraient été brûlés par des groupes criminels armés. Un qui avait déjà été abandonné par la police et un autre qui ne l'était toujours pas jusqu'à hier. Donc, on est toujours inquiet ici à Port-au-Prince.
Bon, quand on parle de ces gangs armés, là, je voyais ce matin des portraits, même le journal Le Monde en a fait un sur ce chef qui est un ancien policier, là, qu'on surnomme Barbecue. Oui. Il fait quoi dans la vie? C'est vraiment le leader?
Bon, c'est surtout le porte-parole. C'est lui qu'on voit plus souvent dans les médias. Mais ça reste une coalition qui est pas très structurée. C'est des gens qui se sont mis d'accord. Des gens qui, avant, étaient parfois même des ennemis, qui avaient fait plusieurs, entre guillemets, guerres dans les rues de la ville, entre eux pour de contrôle de territoire. Maintenant, qui se sont mis ensemble pour faire cette attaque ciblée contre un objectif commun. Donc, ça reste quand même fragile. Mais c'est quelqu'un qui est habitué de coordonner ce genre de coalition-là. Il a fait ça déjà par le passé. Il essaie de rassembler les groupes du centre de Port-au-Prince et de sa banlieue autour d'une cause commune. Cette fois-ci, c'est contre le gouvernement, mais dans le passé, il a déjà même appuyé le gouvernement, notamment de Jovenel Moïse.
Bon, est-ce que, quand on parle de la capitale qui est sous contrôle là, de ces gangs, c'est une chose. Dans le reste du pays, ça se passe de quelle façon?
Mais le reste du pays, c'est plutôt calme. Il y a une région qui est vraiment affectée par les violences tout près de Port-au-Prince. Sinon, la sécurité est plutôt plus ou moins correcte. On peut se déplacer encore, même la nuit. C'est assez bien contrôlé. Par contre, toute l'économie du pays est à l'arrêt depuis 3 ans. Comme Port-au-Prince est au centre et c'est au centre aussi de l'économie du pays, il y a une inflation de 20 à 40 % depuis 3 ans qui laisse beaucoup de gens dans le besoin en ce moment. Il y a des grands problème de nutrition. Donc, le reste du pays est quand même plus calme, mais tout le monde est inquiet. Tous les regards sont fixés vers Port-au-Prince pour voir comment on peut résoudre la situation. C'est pour ça que les gens en veulent beaucoup au premier ministre, parce qu'il n'a pas résolu ces problèmes de groupes criminels à Port-au-Prince. Et là, l'ironie de la chose, c'est que ces groupes-là même se rebellent à leur tour contre le gouvernement et attaquent les institutions du gouvernement. C'est beaucoup pour l'instant et le gouvernement, on sent vraiment qu'il est dépassé par les événements. Comme on le disait au début, le premier ministre n'arrive même pas à rentrer au pays après avoir été signé une entente avec le Kenya pour que le Kenya puisse venir aider avec la sécurité en Haïti.
Bon, tu parlais de nutrition. Est-ce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement d'eau potable?
Oui, l'eau potable, c'est un des enjeux en ce moment depuis quelques jours. On voit les files devant les commerces qui vendent de l'eau potable qui s'allongent. Les supermarchés commencent à ne plus pouvoir en offrir non plus dans des galons. Donc, on est un peu à la course, mais en Haïti, on est habitué d'avoir ce genre de pénurie-là. Probablement que ça deviendra problématique seulement que la semaine prochaine, si vraiment la situation s'améliore pas, que les usines d'eau potable peuvent pas reprendre leur production. Sinon, c'est un peu la même chose pour le gaz. Il y a quelques files devant les stations-service. Mais pour l'instant, tout le monde est plutôt calme, reste chez eux. Les groupes s'en sont pas pris aux maisons des gens trop pour l'instant. Ça pourrait changer parce que ça n'a pas toujours été leur habitude. Mais on reste chez soi et on semble plus ou moins en sécurité. C'est la police qui est vraiment à bout de souffle, qui a eu un coup de main de l'armée depuis quelques jours, surtout aux alentours de l'aéroport.
Merci beaucoup. Bonne journée. Étienne, de côté Paluc, qui nous parlait en direct de Port-au-Prince ce matin.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.